La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à minuit.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Charlie Clovis et Nicolas Alder, que je salue, ils sont tout nouveaux dans la maison. Alors, le programme aujourd'hui, un programme chargé. On parlera aussi de Peter Watkins. Peter Watkins, vous le connaissez si vous êtes des adeptes de la lutte contre la monoforme télévisuelle, puisque Peter Watkins est un des réalisateurs les plus engagés de ce siècle, quelqu'un qui se fait très rare à la télévision. On a la chance actuellement d'avoir une rétrospective de ses plus grands films au Reflet Médicis à Paris. C'est Samantha Lavergnol qui sera avec nous par téléphone pour nous en parler. C'est elle qui a instigé cette rétrospective. Peter Watkins, réalisateur britannique, né en 1935. Ses films, dit-on, sont pacifiques et radicaux. C'est quelqu'un qui est rare, très rare dans les médias, très rare à la télévision, on ne le voit quasiment jamais. C'est un choix de sa part. Et un hommage lui avait été déjà rendu au Festival de films de La Rochelle en 2004. Et aujourd'hui, jusqu'au 21 décembre, c'est le Reflet Médicis à Paris, à 3 rue Champollion, à Paris 5e, métro Saint-Michel ou Odéon, allez-y, qui lui rend hommage avec une rétrospective de ses plus grands films. Peter Watkins est un phénomène, un champignon rare dans une époque vénéneuse, une comète récurrente dans le ciel pâle du cinéma contemporain, un génie sans doute, à coup sûr un honnête homme, et c'est le grand mérite de cet homme-là que d'avoir survécu à presque tout physiquement, intellectuellement et artistiquement. Des bombardements de la Luftwaffe aux assauts conjugués de la bêtise, du conformisme à la censure, en 40 ans de carrière, insolemment libre, il nous livre une poignée de films cultes et une furieuse indépendance. C'est un extrait de l'introduction du livre de Peter Watkins, traduit par son fils Patrick Watkins, qui s'appelle « Media Crisis ». Et c'est signé, ces mots que vous venez d'entendre, Jean-Pierre Le Nestour. Et je vous propose tout de suite d'entendre la voix de Peter Watkins.
Toutes les grandes maisons de télévision, ils ont ce qu'on appelle en anglais, c'est pas exactement les règlements, mais on les met en anglais « standards and practices ». Ils ont un chart dans un sens de standard et de pratique pour avoir une base solide avec le public. Et qu'est-ce que c'est cette base? C'est l'objectivité. Et ça, oui, même dans les années 50, et le BBC, le British Broadcasting Corporation, c'est une des premières chaînes de télévision qui ont vraiment établi cette idée d'objectivité audiovisuelle. Impartial, balance, objectivité, je répète ces mots tout le temps. Ça, c'est votre devoir professionnel. Et si vous ne travaillez pas comme ça, il n'y a pas de place pour vous dans l'audiovisuel professionnel. Chut, allez à la porte. Je ne sais pas, j'imagine en France, vous avez certainement ça. Ça veut dire c'est une base, et avec cette base, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et le petit problématique, c'est que cette base est totalement mythique. Faux, artificiel, synthétique, mythique. Faux. C'est un mensonge. C'est probablement un des plus grands mensonges professionnels. C'est probablement le plus grand mensonge qui concerne le mass media, cette idée d'objectivité. Et si vous pensez ce que je viens de vous parler maintenant, le monoforme, vous voyez déjà tout de suite comment ça c'est faux. Parce que cette monoforme, ce n'est pas objectif du tout. Au contraire, c'est totalement la base d'une pensée corporative ou économique, comme vous voulez, subjective. Nous avons eu le cinéma, construit dans les années, pendant la Première Guerre mondiale, plus ou moins. Et les grands films de David Walk Griffith, The Birth of a Nation, exemple. Ça, là, on voit tout de suite l'arrivée d'une certaine forme. Les coupures rapides, parallel action, gros plan, plin, ting, tong, tout ce qu'on appelle maintenant le cinéma classique. Sauf que ce n'est pas classique du tout. C'est une forme, dans un sens. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est une forme et un processus avec l'audience, avec les gens, spécifique. C'est rien à faire avec le gros, grand, énorme, multiple possibility de le cinéma, ou de télévision, ou de radio. Par exemple, toutes les grandes formes d'audiovisuel. Et cette forme, ce que je commençais d'étudier cette forme, la forme hollywoodienne, qu'après on a vu arrive en pleine forme dans la télévision, et après la télévision a vraiment fait concentrer cette forme, oui, et c'est-à-dire que par les années 70, c'était vraiment là, ce que j'appelle le monoforme. Et c'était, vous savez comme moi, qu'est-ce que c'est? Et le problème, c'est que cette forme, cette structure, cette grille rigide et déterminée et globale maintenant, et vous pouvez mesurer ça, si vous ne croyez pas, allez ce soir ou demain soir, et pour une semaine, chaque soir, regarde les actualités avec un... un chronomètre, et mesure les coupures, qu'est-ce que se passe, ce soit, si vous avez fait ça déjà, vous savez, c'est très intéressant et horrifiant en même temps de faire ça, parce que là, vous voyez cette forme normalement invisible, mais c'est là pour voir. Le problème, une partie du problème, c'est que nous, dans le public, nous avons absolument rien d'information que ça existe, premièrement, et comment décortiquer ça, deuxièmement, et qu'est-ce que ça représente, troisièmement, quatrièmement, etc. Les télévisions en, je ne sais pas, Brésil, les télévisions en Suède, c'est tous le même. Pratiquement tous le même. Peut-être les seules petites différences dans les vitesses, peut-être. Mais normalement, c'est exactement la même forme avec la même idéologie.
La voix de Peter Watkins. Alors cette interview, elle date de plus de 10 ans, mais ce qu'il dit est toujours vrai, bien sûr. On peut faire le test et on voit que la monoforme existe et peut-être même de plus en plus. Samantha Lavergnol, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Alors vous êtes l'instigatrice de cette rétrospective qui a lieu actuellement jusqu'au 21 décembre au Reflet Médicis. Alors on va pouvoir voir quoi ?
Alors il y a 10 de ces grands films. Et il en manque 2 malheureusement parce qu'on n'a pas les droits encore. C'est des films assez particuliers. Je vais parler des films qu'on voit pas, mais c'est un film très important qui s'appelle Le Voyage et qui est une étude sur les conséquences des guerres nucléaires. Mmh. Et le film dure 14h30, donc évidemment c'est un peu compliqué à programmer. Et donc il y a celui-là qui n'est pas là, mais sinon on a ces grands films. Il y a aussi ces films amateurs. Pour ses débuts, qui sont Le journal d'un soldat inconnu. Ouais. Ça, c'est son premier film amateur. Et ensuite, Les visages oubliés, qui est une reconstitution du soulèvement de Budapest en 56. C'est ça mon histoire. Et donc ça, c'est des films qui l'ont fait remarquer, parce qu'en Angleterre, à l'époque, il y avait, les films amateurs avaient quand même beaucoup de d'écho dans les médias, etc. C'était considéré comme quelque chose de très bien. Et du coup, il a été embauché par la BBC suite au film Les visages oubliés, où il a tourné le film La bataille de Culloden, qui est une reconstitution de la dernière bataille qui s'est livrée sur le sol anglais. Mais c'était en Écosse. Hein. Mais c'est la dernière bataille... disons civil, c'est où les Anglais ont carrément massacré toute la culture écossaise. Et c'est filmé, on est en pleine guerre du Vietnam en fait à cette époque-là. Ils filment la bataille de Culloden comme s'il y avait une, comme si c'était enfin à la façon de des reportages qu'on pouvait voir sur la guerre du Vietnam. Donc il y a quelque chose de
une sorte de mise en abîme de la forme qu'on voit, c'est vraiment sa question essentielle. Vous dites des films de 14 heures, je crois que c'est son dernier film, La Commune de Paris, oui. Qui est un mélange de théâtre, de cinéma, enfin, c'est assez formidable. Et c'est aussi un film qui est très très long, participatif, et puis dont il ignorait la durée avant de le tourner, j'imagine.
Alors, pour La Commune, c'est un autre... c'est une autre façon de faire, c'est en fait... il a voulu reconstituer cette période extraordinaire de lutte d'un peuple et des idées qui en émanaient. Et il a voulu aussi faire un parallèle avec le présent. Mm-hmm. Donc il a pris des gens qui pouvaient peut-être représenter ce que les communards étaient à l'époque, c'est-à-dire les sans-papiers, les gens militants à droit au logement, droit de vent, il y a pas mal d'intermittents du spectacle, enfin des gens qui ont des soucis politiques et qui essayent de faire quelque chose. Ça a été tourné en 99. Mm-hmm. Donc il fait un parallèle entre les luttes de 1999 avec les luttes en se servant de la trame, disons, chronologique de 1871. Mmh. Et ça donne un truc assez incroyable, effectivement. Alors, il est très très long. Ça dépend comment on voit les choses. Il fait 5h45 en version originale. Peter a décidé de faire une version plus courte de 3h30 pour des raisons, pour pouvoir programmer le film dans les cinémas, tout simplement, parce que maintenant, les cinémas ne veulent plus... Déjà, 3h30, c'est beaucoup pour eux. Les cinémas ne veulent plus montrer des films hors formatage, qui est à peu près 1h30 en moyenne. Mmh. Et donc, il a quand même fait ce boulot de raccourcissement, mais en fait, c'est un procédé aussi. Alors ça, c'est tout son talent. Un procédé de montage se sent tellement investi dans ce qui se passe, on ne sent pas le temps.
Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de le voir, c'était lors d'un festival d'attaque il y a quelques années. J'ai vu la version longue et je dois dire que le temps passe très vite puisqu'on se reconnaît totalement dans les personnages. On vit le truc, ouais. c'est assez ouais. génial.
Ben ouais, ouais. Et je l'ai vu, moi, la commune version originale, je l'ai vu peut-être, je ne sais pas moi maintenant, j'ai dû l'avoir 20 fois. Et je m'en lasse pas, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une brillance, il y a toujours quelque chose qui sort, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des... Oui.
Pardon.
Non,
c'est
moi.
C'est un très beau film.
Oui, effectivement, c'est un très beau film. Alors, est-ce qu'il y a Alors, Peter Watkins se fait très, très rare et très discret. C'est sa force, d'ailleurs. On l'entend très peu. Mais est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'il y aura des débats? Est-ce qu'il y a des événements qui sont un petit peu prévus pour accompagner ces films?
Il était là pour le début de la rétrospective. Il était venu présenter La Bombe. Mmh. Un petit film qui a été censuré pendant 20 ans. Et il est venu présenter la version de 3h30 de La Commune, mais malheureusement, il a dû repartir chez lui. Et puis, on a eu un débat aussi avec Rebond pour La Commune, mais il est passé maintenant. c'était un Rebond pour La Commune, c'est une association qui s'est constituée suite au mauvais traitement qu'a reçu le film La Commune, donc, par son commanditaire Arte. Qui devait programmer le film en plusieurs parties à une heure normale, quoi, pour que les gens puissent voir le film, tout simplement. Il devait aussi éditer à l'époque c'était des VHS. Il devait éditer le film en VHS pour qu'il soit accessible au public. Et en fait, comme les choses se sont mal passées, Arte a décidé de programmer, ça a commencé, je crois, à 11h du soir. Donc les gens qui voulaient voir quelque chose sur la Semaine sanglante, ils devaient rester debout jusqu'à 4h du matin. Donc voilà, suite à ça, une association s'est créée pour faire vivre, enfin pour accompagner le film, effectivement, et puis faire vivre un peu le processus déjà comme une art, c'est-à-dire se rassembler pour s'organiser, et aussi pour bon bah pour parler de ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on peut faire pour essayer de en tout cas de moins se faire avoir par les choses.
Voilà, si c'était possible en 1871, si des gens ont eu le courage de le faire, et c'était peut-être une utopie, la Commune, mais quand même, il y a eu, ça a soulevé un espoir terrible, et ça a été possible. Pourquoi ça ne le serait pas aujourd'hui, bon sang oui. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure, Samantha, la bombe, pourquoi ce film a-t-il été censuré?
Alors en fait, il a été très très malin. Il est allé se renseigner sur les conséquences d'une guerre nucléaire. Il est allé voir les gens qui sont blessés, etc. Et il est allé aussi voir le gouvernement anglais militaire pour se renseigner à savoir quel serait le programme en cas d'attaque nucléaire, que ferait le gouvernement anglais pour
C'était au milieu des années 60, hein, c'était en 65.
Ouais, ouais. 65. Et du coup, il reconstitue, comme s'il y avait eu une attaque nucléaire, il reconstitue et il filme en fait ses découvertes réelles, c'est-à-dire ce que ça fait aux gens et ce que le gouvernement mettrait en place. Donc, d'une part, ça mettait le gouvernement à mal, parce qu'on voit que c'est n'importe quoi, parce que le gouvernement avait prévu pour ce sujet. En cas d'attaque nucléaire, ça y a de quoi faire peur plutôt que de rassurer. Et d'autre part, la BBC à l'époque aussi faisait une grande campagne pour dire qu'elle était indépendante de l'État. Mm-hmm. C'est la chaîne de télévision anglaise. Hein.
Oui, oui.
Et lors du visionnage du film, il y a eu des projections faites au Parlement, enfin en tout cas un organisme d'État très puissant, ils ont décidé qu'il fallait censurer le film parce que d'une part il soulèverait la panique chez les gens qui verraient le film, ça mettait très à mal le gouvernement anglais par rapport à ce qu'ils voulaient faire pour en cas d'attaque nucléaire avec le peuple. Et du coup, ils ont décidé d'interdire le film d'antenne pendant 20 ans. Ce film a été vu, il est sorti quand même. Il y avait une vis de forme dans le contrat. Il est sorti quand même en salle de cinéma dans les années 66-67 en France en tout cas. Ça je sais. Mais sinon, interdit d'antenne pendant 20 ans. Et aussi un détail croustillant, c'est que c'est le seul film de fiction ayant gagné un Oscar du documentaire.
D'accord.
Donc c'est une fiction qui a gagné un Oscar du documentaire en 66, je crois.
Alors pour terminer, jusqu'au 21 décembre, on peut bien sûr aller au Reflet Médicis.
Mais je crois que ça dure même tout le mois.
Tout le mois.
Décembre. Il y aura peut-être moins de projections, enfin moins de séances, mais aux dernières nouvelles, la rétro durait jusqu'à la fin du mois de décembre.
Donc, allez sur le site du Reflet Médicis, et puis allez-y aussi physiquement, c'est 3 rue Champollion à Paris, dans le 5e, métro Saint-Michel ou Odéon. Vous tomberez forcément sur un film de Watkins, et pour ceux qui n'habitent pas à Paris, il y aura, je pense, vous avez organisé une espèce de petite tournée en province, et puis il y a aussi les DVD.
Ah oui, il y a les DVD édités chez Dorian Films. Tous les films montrés là, à la rétrospective sont édités chez Dorian Films. C'est vrai que ce serait super que les gens viennent voir ces films au cinéma parce que déjà c'est rare d'avoir une rétrospective de ces films
Et puis c'est bien de voir les choses ensemble, c'est un petit peu de collectif quand même qui se crée.
C'est vrai. Il y a un bistrot en face et vous pouvez très bien vous organiser autour d'un verre pour discuter après les films.
Voilà, la révolution est en marche.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que son dernier film est sorti en 2000, donc La Commune. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Peter Watkins? Est-ce qu'il continue à tourner, à filmer?
Alors, il fait plutôt du travail d'investigation maintenant. C'est-à-dire il fait plutôt des CD-ROM, c'est des mélanges de films, de sons, de photos. Et alors il est sur divers sujets, il a fait un projet avec des gens avec qui il était en internat au Pays de Galles. C'est plutôt une critique sur l'éducation. Il fait aussi un travail de recherche assez intéressant sur les monuments aux morts dans sa région. Il habite dans la Creuse maintenant. Et avec un lien avec les descendants de ces gens, de ces morts, quoi, pour voir quels ont été les effets de la guerre sur les gens aujourd'hui, et quelle est la mémoire, et qu'est-ce qu'on en retire, quoi. Donc voilà, il fait ça dans son coin, il est très bien comme ça. Il a aussi fait un truc assez incroyable à Tourcoing. Il n'y a pas longtemps, des séances d'atelier justement autour de la monoforme avec des gens qui voulaient bien participer à ça. Voilà, c'était une quarantaine, je crois, pendant toute une semaine. Il y a eu des ateliers pour mettre des choses en place et il va les revoir au mois de mars-avril pour voir comment ça avance, le projet avance. Moi, j'en saurai plus en mars-avril. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas très bien ce qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a eu les ateliers. Mais je connais pas exactement le rendu.
Voilà. Très bien. Bah, vous viendrez nous raconter, Samantha. Merci beaucoup, oui. En tout cas, d'être venue ce matin. Et puis, on se quitte avec quelqu'un que vous connaissez bien. On se quitte avec la chanson populaire Fantasio.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée, Samantha.
La musique populaire, bâtarde fière, emballée d'air en air, fabriquée au lance-pierre. Rafistolés de bouche en bouche, de ruines de siècle en siècle, des tables secs en palais louches, pétris, macérés, au voyage de bouche, en tertiaire, ternaire, binaire, en rythme centenaire, déterre les imaginaires, marque au fer rouge les transmissions de mère en fils, de père en frère, témoigne des moments doux comme des indicibles guerres, guérisseuse d'âmes perdues. Penseuse de corps en guerre, passeuse de frontières, conteuse de zones abandonnées, traductrice des joies, des peurs, des conseils des anciens, bâtarde, fragile, invisible, viens, viens, viens là! Impalpable, viens, donne-moi la main, quand les anciens seront partis, tu es une des seules sur qui on pourra compter, tu es une des seules sur qui on pourra compter, nous être fragiles, écartelés, divisés, dévalisé, aux quatre sens vidés, de la sève mère des instincts, que les dieux sauvages dans leur affolement de notre survie nous avaient donné. Là, cette cage que tu as, enfant, n'est pas seulement celle qu'on désigne par cage des animaux, c'est aussi la prêtresse qu'on dit cage thoraxique, celle que tu as à l'opposé du dos, qui fait qu'on peut t'entendre de Paris au Mexique, qui peut souffler des sons qui charment les enfants, endorment les nouveau-nés et charment la maman. La musique populaire, bâtarde, fière, traînant des casseroles de fonte, d'argent, de fer, boitant, traînant sa patte folle, où se bousculent couplets, décuplés, ritournelles, mélopées, sacrées, salopées, nacrées, simplifiées, savantes, plaintes indiennes, profanes chansons de ruelles, de Bombay, d'hommes sous, bombant le torse, sifflotant un mélange de trois chants de prison, 600 refrains de bagne, excitante Madelon, ruisselante sous son pagne, supportant les horreurs paillardes des ports en permission.
Voilà, c'était Fantasio sur Aligre FM 93.1. Fantasio que vous pourrez retrouver vendredi prochain, 17 décembre à 20h30 à la Maison Populaire à Montreuil. Fantasio Gang, donc ça veut dire avec plein de copains. Et également avec Gaspard Lanuit, un autre chanteur, donc à la Maison Populaire de Montreuil. Si je retrouve l'adresse sous peu, ben oui, absolument, c'est 9 bis rue du Dombas à Montreuil. Et puis tous les renseignements sont au 01 42 87 08 68. 01 42 87 08 68. Réservé, c'est formidable. Fantasio est toujours plein de surprises.